Libres échanges.
Animé par Olivier Lostis
et Gabriel Seban.
Libres échanges au-delà des frontières de chacun.
Pour interroger l'évolution de notre société, des points de vue, des interrogations pour un vivre ensemble autrement.
Bonjour. Qu'elle se porte sur les croyances, sur des idées, sur l'impudeur de l'utilisation ou de la médiatisation du corps, la censure est une menace. Derrière cet attentat à la liberté d'expression, première des libertés en démocratie, il y a-t-il des raisons de perdre confiance en la démocratie précisément ? C'est le thème de Libre-Échange aujourd'hui.
Pour en parler avec nous, Philippe Arbouche, avocat, et Éric Moine, rédacteur en chef de l'Éco-Républicain.
Alors, le combat pour la liberté d'expression remonte à loin. Il remonte à la Grèce du 4e siècle avant Jésus-Christ. Et plaire, déplaire, la censure était déjà un outil de pouvoir, même si elle se voulait un outil de régulation. Alors, qu'est-ce qui, aujourd'hui, permet de circonscrire le périmètre de la censure ?
La loi, d'abord. Mais la loi est très lointaine. Déjà, tout le monde ne connaît pas la loi. Et plus que la censure, je pense que, en tout cas, ce qui concerne les médias... Aujourd'hui, la censure ne peut plus s'exercer de toute façon avec les outils, les réseaux sociaux. Une loi en France ne peut pas être exercée à l'extérieur. Par exemple, regardez ce qui s'est passé pour les élections. En France, il était interdit de publier les résultats des élections avant 20h pour la presse. La Belgique l'a fait à 18h30 ou 19h. Donc tout le monde peut aller voir les résultats. Donc c'est un peu une grosse hypocrisie, employons le terme. Et à tel point aujourd'hui que l'état d'urgence en cours actuellement, pour la première fois, a retiré le volet censure de la presse qui est appliqué. Donc aujourd'hui, dans le cadre de l'état d'urgence, nous, journalistes, nous ne sommes pas censurés. L'État n'a pas le droit de nous censurer dans le cadre de l'état d'urgence. Cela dit, la censure, au-delà de la loi, aujourd'hui s'exerce de beaucoup d'autres manières. C'est plus des formes de pression politique que de la censure. Et aussi de l'autocensure. Il nous arrive de ne pas écrire dans le journal des informations que nous avons parce qu'on sait qu'elles auront des conséquences graves au niveau de citoyenneté. On est journaliste, mais on est aussi d'abord citoyen.
D'accord. Alors ça fait beaucoup de sujets en même temps parce qu'il y a la question, une question éthique, par exemple. Mais avant celle-là, peut-être qu'on peut évoquer avec Philippe Arbouche, justement, en quelque sorte, le vide juridique. Éric Moine le disait à l'instant. Par exemple, dans le cas de l'état d'urgence, il n'y a pas aujourd'hui de censure administrative possible. Et en gros, juridiquement, il y a finalement assez peu de choses sur ce sujet.
Très, très peu. Très, très peu. Moi, j'ai été impressionné lorsque vous m'avez proposé de venir faire une petite causerie sur ce sujet. Parce que comme je n'ai pas la science infuse et que j'ai toujours un peu peur de me tromper, eh bien, je vais aller vérifier les informations. Et là, grand vide, rien du tout. Rien. Donc je suis même allé de façon très basique sur le lexique des termes juridiques, c'est-à-dire en gros ce que tout citoyen devrait avoir dans sa besace, mais ce qui sert surtout aux étudiants en droit. Et sur censure, on trouve vraiment le minimum minimorum, bien sûr, avec le rappel de la loi de 1881 sur la loi sur la presse. Et c'est là où apparaît véritablement cette notion de censure. Tout journal, tout écrit périodique peut être publié sans autorisation préalable, etc. Bon, mais sinon, on est davantage dans de la sociologie juridique, dans du fait, que dans du droit. Et se pose bien évidemment cette question de la jonction du fait et du droit, à savoir, vous venez de le dire à l'instant, ben, la presse n'est pas censurée, mais si on dit des bêtises, qu'est-ce qui se passe ? Et c'est ça qui est intéressant, ça va être finalement les conséquences de l'absence de censure, de l'autocensure ou de concepts de cette nature. En soi, le droit, pas grand-chose à dire hein, pour l'instant, sur le mot en tout cas.
Tel que vous le dites, je comprends que juridiquement la censure est essentiellement une censure préalable. Il y a pourtant eu un exemple récent et assez célèbre de censure préalable. Je veux parler du spectacle de Dieudonné il y a maintenant un an et demi, je crois, enfin, je ne sais plus. Spectacle qui a été interdit à Nantes, préalablement, enfin avant qu'il n'ait lieu, par définition.
Ça n'a pas fait l'unanimité hein, chez les juristes, loin de là, et pas forcément chez des gens qui sont négationnistes ou qui approuvent les propos de Dieudonné. On est sur un problème de fond. Pour empêcher un crime, on va parler d'un crime, c'est plus symbolique. Depuis tout le temps, on se pose cette question, est-ce qu'on doit mettre un policier, alors pardon pour la comparaison, elle est un peu basique, mais voilà qu'on a l'idée qu'une banque va être attaquée. Alors évidemment, et c'est arrivé, hein, c'est arrivé il y a quelque temps dans cette région, il y avait un pauvre diable qui traînait devant une banque. La dame de la banque a eu très peur, c'était vraiment un pauvre diable, et a appelé les gendarmes. Et les gendarmes ont repéré ce pauvre diable, je m'en souviens encore, qui avait un comportement tout à fait inapproprié, on pourrait dire aujourd'hui, et l'ont embarqué, ils l'ont mis en garde à vue. Alors c'était une censure préventive, c'était une sanction préventive, c'était l'anticipation du risque, c'est la peur d'eux. Et Dieudonné, c'est « mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer si on laisse ?» Donc tant pis, on va agir juridiquement sur des bases qui sont, on en parlera peut-être, la loi Guesso, etc. Enfin, on va agir sur des bases qui sont peut-être douteuses, parfois. Oui, je dis peut-être.
D'ailleurs, si je peux me permettre, Dieudonné, il y a deux jours, vient de saisir le tribunal administratif pour Nantes, Orléans et Tours, où les maires ont pris des arrêtés pour annuler ces spectacles. Il réclame quand même 1 million d'euros à chacune de ces communes.
Oui.
Et très sincèrement, j'ai un peu lu les argumentaires des uns et des autres. Je ne suis pas persuadé que Dieudonné va perdre son procès. A priori, les maires se sont basés uniquement sur une note du Premier ministre. Une note du Premier ministre n'a pas valeur de loi. Or, le tribunal administratif, Dieu sait qu'ils sont rigoureux, vont se baser uniquement sur la loi.
Alors, vous faites la différence entre la liberté d'opinion et la liberté d'expression, à travers ce que vous dites. Mais peut-on justifier, du coup, le besoin de censure ?
Non, je ne pense pas. Mais si on en revient au cas de Dieudonné, par exemple, en fait, on lui interdit de faire un spectacle avant même que ce qu'il a dit dans le spectacle précédent ait pu être reconnu comme contraire à la loi. Effectivement, il y a une précipitation. Cela dit, je ne m'engage pas sur est-ce qu'ils ont eu raison ou pas raison. Je me mets aussi à leur place. En tant que maire, une petite ou une grosse commune, on a aussi la responsabilité de la sécurité de ses citoyens. Et, peut-être qu'ils n'ont pas d'autres armes, simplement. Ils ont pu prendre cette décision, sachant pertinemment qu'un an ou deux ans après, ils se feront condamner.
Et le risque, en l'occurrence, de penser de façon autre, même si c'est une façon autre négative, il se situe où dans une société française qui se veut effectivement démocratique?
Je crois que tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut. Le problème est dans l'expression de ce que l'on pense. Je suis intimement convaincu que notre liberté en démocratie est extrêmement grande, mais il ne faut jamais oublier qu'elle s'arrête là où commence celle des autres. D'où les débats, on revient au débat sur faut-il ou pas représenter Mahomet, etc. etc. À un moment donné, je pense qu'il faut effectivement être en capacité de prendre du recul, de se poser et de réfléchir ce qu'on va dire, écrire ou dessiner. Est-ce que ça va heurter quelqu'un? Est-ce que je peux me passer de faire ça? Est-ce que je ne peux pas m'en passer? Là, le débat, il est infini et je ne suis ni dessinateur... porte-parole d'une communauté. Donc, si je ne sais pas, j'ai un choix citoyen que je fais moi. Après, professionnellement, on s'impose des règles aussi. Hein.
Alors, justement, vous évoquez la représentation de Mahomet, donc sujet qui évidemment fait débat dans le monde entier, là, dans tous les médias, dans le monde entier, c'est bien entendu la question de Charlie Hebdo. C'est l'anniversaire de l'attentat. Les débats sont très tranchés. On peut voir dans des publications qui font état de la presse dans le monde entier des positions extrêmement différentes, avec des défenseurs d'une liberté d'expression sans aucune limite à l'expression, c'est-à-dire y compris l'expression provocatrice, voire choquante, etc. Et des gens qui, effectivement, font état d'une position plus proche de la vôtre, Eric Moine, c'est-à-dire une position qui implique une responsabilité, et puis finalement un retour sur soi, sur une réflexion éthique, qui, en effet, ne peut pas vraiment être tranchée. On peut poser ses propres limites à différents endroits. Par exemple, dans le cas, sans parler de Charlie Hebdo, ou en en parlant si vous voulez, mais dans votre pratique journalistique, vous posez des règles. Vous êtes rédacteur en chef, donc en plus vous en posez aussi aux gens qui travaillent avec vous.
Bien sûr. Mmh. Et quand on pose une règle, encore une fois, la seule chose, le socle commun de ces règles, c'est toujours quelle va être la conséquence de ce qu'on va dire ou écrire. Voilà, j'ai des exemples précis. Par exemple, quand on est au tribunal, vous avez une audience publique où tout le monde voit les prévenus, les condamnés, on connaît leur nom, leur prénom, leur âge, on sait tout sur eux. Quel intérêt peut avoir un journal à forcément, systématiquement publier ce nom qui est public ? Je veux dire, on a encore une fois parfaitement le droit de le faire, mais j'ai effectivement imposé dans mon journal que l'on ne publie pas le nom des gens qui ne sont pas condamnés à moins de 3 mois prison ferme, ce qui en gros va représenter 3-4% des personnes condamnées qui auront leur nom dans le journal. Tout simplement parce qu'on considère que tout le monde peut un jour se retrouver au tribunal, après avoir son nom dans le journal est aussi une forme de probe, on en a parfaitement conscience, donc... On estime qu'on n'a pas non plus... c'est une forme de jugement public de mettre le nom de quelqu'un dans le journal, donc on décide de ne pas le faire, parfois parce qu'on n'a pas envie non plus d'en rajouter.
Saying more when I'm saying less. Save your breath, it's censorship and never rest. I must confess, I'm a bull with the what? Yeah, yo, I'm a bull with the what? Yeah, yo, I'm a bull with the huh? Yeah, yo, I'm a bull with the what? Yeah, I'm saying more when I'm saying less. Save your breath, it's censorship and never rest. I must confess. When she wakes up, the first thing she thinks about the step up at the paper, she gon' read about the never really matter though, she needs to get the yo, I'm ready to kick it with the wickedness, the people who are sick of the sickness and the pickiness, the even though the system is quite discriminated and never gave a fuck about an immigrant. CZ need to get the fuck up out of our predicaments before they stop swinging in and bringing in the middleman. Me and Span bringing in the rhythm in. Prop the fuck in the Ritalin. I'ma keep on kicking, kicking, kicking till they kicking in my door too. Pen is my sword too. Got the terror plots. Most of us are scared of cops. Some of us are scared of top. I put the fuck to them. I hope you fucking rot. I'm saying more when I'm saying less. Take your breath, the censorship and never rest. I must confess, I'm at war with the what? I'm at war with the huh? Yo, yo, I'm at war with the what? Yo, yo, I'm at war with the what? Yo, cause I'm saying more, I'm saying less. Take your breath, the censorship and never rest. I must confess, check it. I'm taking back the word. No longer does it mean, it means peace. But if a white man say it, it means peace, sort of like the heat. And we gon' see the peace when the peace meets the heat. Summertime makes all the wanna be.
Vous êtes actuellement sur Radio Grand Ciel, vous écoutez l'émission Libres Échanges en présence de Eric Moine et Philippe Arbouche.
Là, vous évoquez la question du préjudice potentiel. Oui. Donc, Philippe Arbouche, juridiquement, il y a bien des moyens de réplique, de réponse à une éventuelle provocation une affirmation problématique. Enfin, on pense à tous les procès, d'ailleurs, qui peuvent entourer la presse dite People, par exemple. Il y a beaucoup de procès qu'ils ont gagnés par des gens qui s'estiment lésés dans leur vie privée ou ce genre de choses.
Oui, vous l'avez dit, c'est... ça a été dit à l'instant, la différence entre l'opinion et l'expression de cette opinion. opinion, voilà, c'est dans ma tête, c'est je crois ce que je veux, je pense ce que je veux. L'expression, ce serait, dans un monde parfait, ne pas faire du mal à autrui. Ce serait un monde parfait. Donc la position qui a été tenue, qui est tenue par votre journal, par exemple, dire voilà, nous mettons la limite à cet endroit. Mais il y a deux thèses qui s'opposent, qui sont parfaitement respectables, mais peu conciliables. Il y a ceux qui disent il n'y a pas de limite à cette liberté, il n'y a pas de limite. Alors on a des grands penseurs, hein, des gens tout à fait intéressants, Chomsky, etc. etc. Bon, il n'y a pas de limite. Okay. Et puis il y a ceux qui disent, ben, attention, on est dans des situations déterminées, on peut faire du mal, on doit avoir une sorte de devoir de réserve. Bon. La presse People, c'était tentant, mais ce sont des gens qui sont, dont le métier, enfin pardonnez-moi, je vous donne mon sentiment en tout cas, dont le métier est d'être sur le fil du rasoir en permanence. C'est-à-dire que, en tout cas c'est mon sentiment, pour vendre, ben c'est bien si on en rajoute une couche. Si ça coûte, ben ça coûtera, mais on en aura rajouté une couche. Quand j'étais un peu plus jeune, on parlait de la bière, d'une certaine marque de bière, dont je ne dirai pas, je ne citerai pas cette marque, mais elle commence par un K, et on disait que c'était de la mauvaise bière. Disait-on, hein, sans... Mais on disait, on s'en fout, l'essentiel c'est de parler de cette bière. Voilà. Ah, mais K, c'est de la mauvaise bière. Oui, mais t'en as parlé. C'est Press People, c'est pas de la bonne presse, ouais, mais ça fait rien, t'en as parlé. Voilà. Là, on touche vraiment à l'éthique et à des choix qui viennent d'être évoqués, le choix de votre journal. On arrête à cet endroit-là. Je dis, moi, c'est pas possible. D'autres n'ont pas ces choix. On peut pas trancher ce débat qui revient à ce que vous disiez précédemment sur l'autocensure. Hein, ça renvoie à ça, selon moi.
D'ailleurs, la presse People, d'ailleurs, connaît parfaitement bien la loi. Très. Ils ont même des budgets pour ça.
Très. Très bons avocats, d'ailleurs.
J'intéresse, oui, d'excellents avocats. Simplement, eux estiment qu'ils ont le devoir, enfin, c'est leur position, de parler aussi bien de la vie privée que de la vie publique. Moi, je me conforme à la loi, c'est-à-dire que j'en reste à la vie publique. À partir du moment où la vie privée n'a pas de conséquences sur la vie publique, voilà, je t'en parle pas parce que ça reste pour moi de la vie privée. C'est-à-dire qu'un monsieur traverse les rues de Paris en scooter, tant que ça ne gêne pas ses fonctions d'homme public, moi, ça ne me gêne pas. Il fait ce qu'il veut de sa vie. Voilà, d'ailleurs, pour préciser l'exemple, dans l'affaire Hollande-Gaillet, Julie Gaillet a gagné au tribunal parce qu'il y a eu atteinte à sa vie privée. Par contre, vous aurez peut-être remarqué que François Hollande n'a pas, lui, déposé plainte parce qu'il sait parfaitement qu'il aurait perdu. Parce que je crois que le journal l'avait bien expliqué à l'époque, M. Hollande, étant président de la République, le fait qu'il soit, dans le cadre de sa vie privée, impliquait aussi qu'il n'était pas protégé, donc ça avait une conséquence sur sa vie publique.
Mais finalement, est-ce que la censure n'amène pas, malgré elle, ou peut-être de façon calculée, une publicité sur l'événement qui est tu, finalement? Oui. Alors, comment s'en sortir? Parce qu'en fait, d'un côté, on n'en parle pas, et du coup, c'est objet de réprimande, et de l'autre on en parle, mais c'est un excès aussi. Où se situe la crédibilité là-dedans?
Moi j'estime que ma crédibilité se situe dans les règles que je fixe et qui sont claires pour tout le monde. Alors, si on me demande ce que vous avez fait, pourquoi je parle de telle chose ou pourquoi je parle pas de telle chose, je suis capable de vous répondre. Voilà, j'ai fixé une règle. Ma règle de base, c'est la dignité humaine. À partir du moment où la dignité humaine de quelqu'un peut être atteinte, voilà, je n'en parle pas. Parce que j'estime que risquer de faire du mal à une personne ne va pas apporter quelque chose aux milliers d'autres qui peuvent lire le journal, par exemple.
Alors, sur cette question de la dignité, on évoque évidemment beaucoup aussi, en ce moment, les questions de religion. Est-ce que de s'exprimer de manière ouvertement contre une pratique religieuse, quelle qu'elle soit. Encore une fois, j'ai en tête l'exemple de Charlie Hebdo, hein, les représentations de Mahomet et d'autres unes qui ont été publiées après, encore récemment. Est-ce qu'on peut réfléchir, est-ce qu'on peut aboutir à une position quant à l'expression autour des pratiques religieuses?
Moi, je vais essayer de ne pas vous faire une réponse d'hypocrite, mais je demande de me croire sincère dans mon propos. Je m'en rapporte au juge. C'est-à-dire qu'on a la chance d'être dans un état de droit. On a la chance d'avoir le double degré de juridiction, d'avoir des magistrats qui sont indépendants, qui sont incorruptibles, je le dis haut et fort. Nous sommes dans un système que beaucoup nous envient dans le monde. Dire qu'il est parfait, non. Mais il est fort quand même. Et ces magistrats ont une tâche délicate parfois, celle de devoir trancher des questions pour lesquelles vos interlocuteurs d'aujourd'hui sont en train d'essayer on tournicote un peu autour du pot, on ne sait pas trop quoi dire exactement, quelle est ma position par rapport aux caricatures de moi-même. J'ai ma position en tant que Philippe Armouche, mais est-ce qu'elle intéresse grand monde? Est-ce que je suis un citoyen? Bon, voilà. Mais le magistrat, lui, doit trancher ça. Il doit trancher dans un état de droit. Et on a, ça a été rappelé, le respect de la vie privée, le respect de la dignité, le respect de l'image. Et puis à un moment donné, le droit aussi de se moquer, le droit aussi de ricaner, le droit aussi d'être de mauvais goût, d'être... Voilà, c'est triste parfois, les unes de Charlie, elles étaient tristes, parfois tristes de mauvais goût. Bon, et ben voilà, le mauvais goût c'est du goût quand même. Et le juge doit faire avec ça. C'est un état de droit dans lequel nous vivons. C'est le juge qui est le garant de nos libertés. La presse est dans cette situation lorsqu'elle franchit la ligne. Eh bien, c'est le juge qui lui tape sur les doigts. Donc, elle se fixe ses règles elle-même. Certains caricaturistes se les fixent. Certains journaux se les fixent. Certains, voilà, on dit non, ça ne sera pas possible. D'autres, non. Mais le juge appréciera si oui ou non ça choque.
Alors, le juge est un point de passage effectivement souhaitable. Par contre, ça a été une surprise tout de même et un choc que de voir que les autorités peuvent désormais bloquer des sites web sans demander l'avis du juge.
Ah ben ça me fait mal.
Alors du coup, est-ce que c'est autorisé, je dirais, sur un plan éthique et sur un plan juridique?
On est sur une période dont on va parler pendant longtemps, parce qu'aujourd'hui, des lois liberticides, bon allez, c'est un peu violent comme mot, mais quand même, ça frôle un peu parfois, sont promulguées pour le plus grand bonheur de tout le monde, parce que bon, il y a une peur, parce qu'il y a tout un contexte sur lequel je ne veux pas m'étaler, puis il y a quand même eu des attentats et des choses gravissimes et d'une extrême douleur pour tout le monde. Voilà, alors au nom de ça, moi je vais vous dire, le citoyen que je suis, moi quand je vois des militaires patrouillés, j'ai peur. Parce que j'espère qu'ils sont entraînés au tir. Voilà. Mais nos concitoyens peuvent penser différemment, c'est parfaitement leur droit. Et s'il n'y avait pas de militaires, est-ce que finalement j'aurais pas peur également? Donc, bloquer les sites web de façon préventive, le législateur devait-il le faire? Je ne suis pas législateur, je constate que cela a été fait. Ça a été fait sans doute pour éviter certaines catastrophes, je ne crois pas que ce soit d'une efficacité redoutable, et c'est bien ça. C'est qu'on est avec, alors je voudrais surtout pas entamer le débat sur la déchéance, mais on est avec des mesures symboliques, des mesures phares, et qui ne correspondent pas forcément à une réalité, une nécessité. Je dis pas qu'un site web qui incite à la haine soit une bonne chose, je dis que nous avons un arsenal juridique, nous avons ce qu'il faut, et que faire du préventif, il faut bien réfléchir avant de faire du préventif. Et surtout de mettre la loi, enfin de mettre de la norme pour permettre de faire du préventif, parce qu'une fois passé le moment d'émotion, eh ben la loi restera.
Oui, et puis soyons objectifs, bloquer des sites web, c'est un coup de petite épée dans l'océan des réseaux sociaux. Mmh. Ça n'a strictement aucun intérêt. Quand vous voyez les moyens de production cinématographique, j'emploie les termes... exprès de production cinématographique digne de Hollywood qu'à Daesh, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Je veux dire qu'en Chine, pourtant Dieu sait que la Chine est un pays extrêmement serré, extrêmement qui censure beaucoup, même la Chine n'arrive pas à contrôler Internet. Je veux dire, que va-t-on faire croire que notre petit pays, la France, va réussir à bloquer un réseau mondial d'échanges? Franchement, c'est de la communication et ça n'a aucun intérêt.
Oui, un quotidien, ça serait plus facile à bloquer, non?
Oui, c'est plus facile à bloquer. Je vous ferai remarquer d'ailleurs que la presse écrite se retrouve beaucoup plus souvent au tribunal que la télévision ou les réseaux sociaux. Il existe même la 17e chambre correctionnelle à Paris qui ne fait que ça toute la journée, condamner de la presse écrite. Après, les réseaux sociaux, vous en faites ce que vous voulez, vous dites ce que vous voulez. Ici passe tout et n'importe quoi, et c'est de toute façon incontrôlable. On s'en rend compte aujourd'hui, mais c'est au moment où on a ouvert le robinet qu'il fallait s'en rendre compte.
Alors, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que la censure, finalement, c'est une certaine forme d'impuissance ?
Oui, c'est la censure, c'était au tout début de l'émission, j'ai retenu le terme. La censure, c'est vous qui l'avez employé, c'est juste le bras armé du pouvoir. C'est juste un exercice de pouvoir. Le problème n'est pas la censure, le problème est le pouvoir et son exercice. Et quand je parle pouvoir, je ne parle pas que de pouvoir politique. Je parle des pouvoirs. Aujourd'hui, on voit bien dans la presse, s'est développé un pouvoir économique, par exemple. Les entreprises, par exemple, savent très bien que la presse vit aussi de publicité et ne se prive pas de nous le faire comprendre quand c'est leur intérêt. Comme le font aussi depuis toujours les politiques. Comme le font aussi parfois les membres de la justice dans tous les domaines. Moi, rédacteur en chef, j'ai très régulièrement des hommes politiques, des chefs d'entreprise, des juges, des procureurs ou des avocats avec qui je discute et qui, de toute façon, prêchent pour leur chapelle, si je puis dire.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher. Il faut que je vous dise, ma décision est prise. Je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain, de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes. J'irai sur les chemins. Mendierai ma vie sur les routes de France, de Bretagne et en Provence, et je crierai aux gens: refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le Président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.
Vous êtes sur Radio Grand Ciel, vous écoutez l'émission Libres Échanges en compagnie de Philippe Arbouche et Eric Moine.
Alors, c'est une violence en soi, sous-jacente, même si elle n'a pas les formes que prend effectivement le terrorisme. Mais est-ce qu'il y a eu une évolution en termes de moralité depuis dans la période que nous traversons? Est-ce qu'il y a une évolution?
Oui, je crois vraiment. Ça fait 25 ans que je fais ce métier, je suis d'une génération, aujourd'hui on parle beaucoup de Charlie Hebdo, mais moi je suis de la génération Harakiri, que je connaissais très bien, que je lisais toutes les semaines, et je me souviens parfaitement, à l'époque, on ne parlait pas beaucoup du caricature de Mahomet, mais il y avait beaucoup plus de caricatures de Dieu et de Jésus. Et je peux vous dire qu'elles étaient beaucoup plus violentes que celles de Mahomet qui sont parues. Certes, mais c'était il y a 25 ans. Je n'ai pas souvenir que les instances religieuses aient mis Harakiri au tribunal. Par contre, je sais que Harakiri l'a souvent été par les politiques.
Et comment l'interpréter, cette évolution, du coup?
Il y a eu une évolution aussi sociétale. Je pense qu'il y a une... je pense que tout est dans l'éducation. Et si on ne sait pas, effectivement, que dans la religion musulmane, on s'interdit, les musulmans s'interdisent la représentation graphique de leur Dieu, on ne peut pas comprendre qu'ils soient choqués par l'apparition de caricatures.
C'est-à-dire qu'en fait, il y aurait un enfermement, un individualisme de pensée, en quelque sorte, qui referme sur elle-même les communautés humaines, oui, qui se côtoient.
Je pense qu'on est sur un problème d'inculture, ou même d'acculture parfois, où les gens ne connaissent pas l'autre, et quand je dis l'autre, c'est de manière générale. Je ne suis pas persuadé aujourd'hui que tous les chrétiens savent que dans la religion musulmane, on refuse la représentation graphique du Dieu. Voilà. À l'inverse, je ne suis pas sûr que tout le musulman sache que pour la religion catholique, ça ne pose pas de problème.
Et du coup, ça serait une perception d'un manque de liberté qui serait purement narcissique, finalement.
Oui, parce que encore une fois, les gens se recentrent beaucoup, je pense, aujourd'hui sur eux-mêmes, et oublient un peu de s'intéresser à l'autre et de savoir ce que l'autre pense, pourquoi il le pense et comment il le pense.
Quelque chose comme du communautarisme, de l'enfermement identitaire, oui, en quelque sorte.
Oui, on voit d'ailleurs, vous voyez bien ce qui se passe, regardez ce qui se passe en Catalogne. Aujourd'hui, on reparle de l'indépendance de Catalogne, regardez ce qui s'est passé en Corse avec l'élection des indépendantistes corses. Ce sont des formes de communautarisme. On parle beaucoup de la communauté musulmane, mais à mon sens, la communauté musulmane n'est qu'une forme de communautarisme, et il y en a beaucoup qui se... Regardez, on parle des cités, tout le monde aujourd'hui fait partie d'une communauté. Regardez le terme le plus employé sur Internet. Qu'est-ce qu'on fait? On passe notre temps à créer des communautés. Après, le problème, effectivement, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ces communautés. Mais aujourd'hui, les gens se retrouvent dans des communautés, et non pas dans la communauté. Chacun a sa communauté.
Je fais le lien avec ce que vous disiez tout à l'heure à propos de lois liberticides. Je reprends vos propos. avec ce que vient de dire Eric Moine, est-ce que nous ne sommes pas, en quelque sorte, dans une situation d'exception? À beaucoup d'égards, pas simplement à propos des modifications constitutionnelles, évidemment, mais une situation d'exception guidée par la peur, des lois, des pratiques communautaires, des lois liberticides, qui pourraient effectivement durer, vous le disiez tout à l'heure, les décisions, y compris législatives, qui peuvent être prises dans un contexte donné. Ensuite, il faut se poser la question de leur destin. C'est-à-dire qu'elles restent, ces lois, potentiellement.
Oui, c'est ça qui est gênant. Que ponctuellement, dans une situation identifiée, connue, pour laquelle il est nécessaire de statuer, qu'à un moment donné, le législateur, qu'à un moment donné, le politique, prenne la décision. C'est sa décision, et peut-être faut-il la prendre. Enfin voilà, faut pas faire d'angélisme non plus. La difficulté, c'est que ça va perdurer dans le temps, et qu'on a, vous faisiez allusion à l'instant, on a une modification des valeurs, on a un changement des valeurs. Et vous disiez des communautés, et non plus la communauté. Et ça, c'est repris de façon lancinante. En écho, moi j'entends par exemple les publicités qui sont faites, on parle du mot tribu aujourd'hui. On est une tribu, alors la tribu familiale, c'est pour vendre hein, tout ça. Hein. La tribu familiale, la tribu de ceci, de cela. Et je pense que c'est assez sournois ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que derrière ça, je sens moi une instrumentalisation de la peur. Alors je ne vais pas faire la théorie du complot, parce que ce n'est pas la mienne. Mais c'est ça qui m'ennuie. Quand je dis liberticide, c'est qu'à un moment, à un instant T, il faut prendre une décision. Le législateur, c'est son travail. Le pouvoir politique, c'est son travail. Ça doit être pris dans des règles qui sont connues. On a une constitution, on a un état de droit. Mais on fixe un cadre qui va durer. On fixe des esprits. On habitue les gens à se faire contrôler un portique. On regardait les films qui ont maintenant quelques dizaines d'années. Ce film grand public, on passait les portiques, on allait, on venait, on portait. Est-ce que vous pensez qu'il y avait moins de dangers, moins de tueries? Est-ce qu'on prend des statistiques? Les crimes de sang étaient beaucoup plus nombreux. Bien évidemment, ce ne sont pas les mêmes. C'était pas les mêmes revendications. Mais ce durcissement en général va perdurer. Et moi, c'est cette instrumentalisation de la peur qui me fait peur. Associé au pouvoir quand même de l'argent derrière, c'est-à-dire dans un but précis, l'hyper-concentration de la presse, par exemple. Les patrons de presse, hein, vous disiez l'influence du politique, les gens qui viennent et qui demandent chacun pour leur chapelle que vous fassiez passer ceci plutôt que cela. Mais aujourd'hui, quand on regarde qui est propriétaire de la grande presse, ils sont combien? Ils sont très peu. Donc le coup de barre d'un côté ou de l'autre, peut être facilement mis. C'est cela qui me gêne. C'est cette absence de... Comme on a un repli sur soi-même, vous le disiez, un repli identitaire, enfin un repli, un individualisme forcené, on ne voit plus les choses en grand, on n'est plus éduqué à ça, la presse ne nous aide pas, et ça me dérange, ça m'inquiète. C'est pour ça que je reviens toujours à mon retour au juge. Lui, au moins, il représente une valeur un peu sûre, je crois.
Je ne veux pas introduire spécialement de polémique, mais sur la question de la presse, Eric Moine, oui. Est-ce que vous vous sentez contre...
Pour l'instant, il faut quand même préciser, la presse nationale, je suis parfaitement d'accord, mais la presse régionale, on a la chance, et j'ai la chance, et j'en suis extrêmement fier, de faire partie d'un groupe de presse Centre France, qui est un groupe familial, et qui est détenu par une fondation, qui n'est pas un groupe de presse. C'est-à-dire que... On estime que nous faisons partie de la société, de la République, nous avons des valeurs républicaines que nous défendons. Nous ne sommes ni droite ni gauche, nous sommes pour le débat public et il n'y a pas d'argent qui rentre dans les caisses ou dans les poches d'actionnaires chez nous. Voilà. C'est une fondation qui détient le groupe Centre France. Le groupe La Dépêche du Midi est dans la même situation, le groupe Ouest de France est dans la même situation, mais c'est vrai, il faut aussi le dire. Que les groupes financiers commencent à racheter aussi la presse régionale comme ils ont déjà acheté la presse nationale. Et c'est vrai que ce sont aussi des gens qui sont là pour faire de l'argent. Voilà. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, on a vu fleurir depuis 10-15 ans un vrai pouvoir économique. Avant, on avait surtout affaire au pouvoir politique, oui. Qui était un vrai gros pouvoir. Et depuis une quinzaine d'années, deux autres pouvoirs émergent, le pouvoir judiciaire et le pouvoir économique.
La censure, historiquement, c'était fait par le pouvoir politique, hein, Anastasie, oui. Enfin voilà. Et aujourd'hui, un journaliste qui va publier, enfin on a vu le reportage sur, je ne juge pas le fond, je juge la forme, sur le Crédit Mutuel et la difficulté à faire passer ce reportage à la télévision sur telle ou telle chaîne. Je ne juge pas le fond, encore une fois. Mais c'était impressionnant quand même que les choses ne puissent pas se passer de cette façon. Ça veut dire quelque chose, c'est ça qu'il faut. C'est ça quand on parle de censure, pour moi.
Oui, c'était à ça que je réfléchissais pendant que vous parliez. C'était que, en fait, on est en tant qu'individu et en tant qu'individu dans une communauté en face d'un monde qui nous dépasse un petit peu sur nos capacités à agir et à le changer. Alors. Je me disais que ne pouvant le faire effectivement de façon démocratique et sereine, nous étions amenés, nous étant tout le monde et personne, mais nous, individus dans une société, étions amenés à pouvoir réagir de façon affective ou désordonnée, en tout cas, ou ordonnée suivant un certain principe, et que ces manières de réagir étaient d'autant moins acceptables qu'elles étaient effectivement en contradiction avec un principe d'ordre non dit, mais effectif, qui passe au-dessus de nous et qui sait pour nous. Donc ma question, c'est finalement, est-ce que la censure n'est pas la réponse à une incapacité de notre société de faire vivre réellement la démocratie?
Oui, c'est le pis-aller. C'est le pis-aller, simplement. On brandit la censure pour faire de la communication politique, pour dire que ça va servir à quelque chose, tout en sachant que ça ne servira strictement à rien. Mais voilà, à un moment donné, il faut combler le vide. C'est très curieux d'ailleurs, parce si on parle de l'information des médias, on est aujourd'hui dans un énorme entonnoir où il y a tout un flot d'informations qui arrivent, mais il n'y a plus personne qui est capable de le trier. Aujourd'hui, j'en suis le premier désolé, je ne suis pas sûr que tout le monde fasse bien la différence entre une information donnée par un journaliste donc, qui a été recoupée, vérifiée, etc., et une information publiée sur Wikipédia, par exemple. J'en reviens à ce que je dis au départ. Je pense qu'à la base de tout ça, on a un vrai problème d'éducation et de culture. Est-ce qu'aujourd'hui, les citoyens savent ce que c'est qu'un journaliste, par exemple? Est-ce qu'aujourd'hui, les citoyens savent qu'historiquement, un journaliste est aussi protégé par la loi, parce que on fait partie du débat public, parce que c'est par notre biais que les arguments des uns et des autres peuvent circuler. Mais voilà, il faut aussi constater, on est aujourd'hui dans un monde de communication mondialisée, qu'on a des réseaux sociaux, je crois que ça échappe au contrôle de tout le monde.
Vous êtes actuellement sur Radio Grand Ciel, vous écoutez l'émission Libres Échanges en présence de Éric Moine et Philippe Arbouche.
Ce qui est en filigrane de beaucoup des d'éléments du débat aujourd'hui, c'est, et vous l'avez évoqué Éric Moine tout à l'heure, c'est la question de l'autocensure. Finalement, l'autocensure relève d'une éthique, on l'a déjà dit, mais je me disais que Quand on était dans cette situation de pouvoir réfléchir à ce qu'on peut dire ou ne pas dire, c'est-à-dire raisonner en termes éthiques, est-ce que ça n'est pas le signe que quand même ça se passe pas si mal que ça, puisqu'on n'a pas besoin de légiférer, on n'a pas besoin de mettre des règles, et on compte sur les acteurs comme justement, entre autres les journalistes, pour que cette régulation se fasse sans... règle liberticide, potentiellement. Qu'est-ce que vous pensez de
ce que ça ne se passe pas si mal? Je crois que l'évolution de la société, comme toute l'histoire avec un grand H, ça ne se passe pas d'un point A à un point B de façon linéaire. Il y a des accidents continus. Depuis la préhistoire, voilà, il y a eu de grands accidents, il y a eu de grandes guerres, il y a eu des conflits, des querelles, etc. Il y en a toujours, il y en aura toujours. Sauf qu'aujourd'hui, on parle... au moment présent, et on est effectivement dans le cadre d'un de ces accidents. Voilà. Et peut-être que dans quelques années, les gens comprendront que le musulman n'est pas l'ennemi, que le chrétien n'est pas l'ennemi, que le bouddhiste n'est pas forcément l'ami, etc. Il faut prendre le temps d'expliquer, mais il faut aussi effectivement prendre le temps d'écouter.
Mais ce qui me semble quand même, c'est qu'il y a un enjeu majeur à ce qu'aussi bien pour les médias que pour la justice, il y ait une sauvegarde de leur indépendance vis-à-vis du pouvoir. Alors, comment c'est possible, ça?
On a un système quand même qui n'est pas trop mal fait. Là, il faut passer au quart d'heure optimiste, hein, quand même. Le système, on a une presse libre. On n'a pas un ministère de la propagande, hein, en France, hein, quand même, hein, faut quand même le dire. Le pouvoir de l'argent, d'accord. Les risques, bien sûr, mais on a aussi des hommes et des femmes qui tiennent aux valeurs fondamentales qui sont les nôtres. Donc on peut s'appuyer sur ces hommes et ces femmes. Vous parliez, pour faire de la publicité, mais vous faisiez allusion à votre groupe de presse, la façon dont ça fonctionne, il y a quand même encore, il y a fort heureusement un certain nombre de fonctionnements comme ça. Moi je suis pas tout à fait... Je fais écho à ce que vous disiez sur... l'information, l'accès à l'information. Je suis peut-être un peu moins pessimiste maintenant, parce que c'est vrai que, dans un premier temps, un tel flot d'informations est venu que tout et n'importe quoi est un peu sorti. Et puis, je suis enseignant par ailleurs à l'université, et je me rends compte que de plus en plus les étudiants essaient de recouper les informations, essaient de s'informer, mais c'est différent. Donc le système de la presse que nous avons connu, enfin ma génération... Oui. Très simplement, on lisait Le Monde et puis voilà, on essayait de... On savait que les articles du Monde, c'était des articles qui étaient recoupés, archi-recoupés. Tout ça s'est délité un peu. D'autres formes d'informations sont venues. La presse fait partie aussi, c'est-à-dire que c'est un des éléments aujourd'hui. Et ça, c'est une nouvelle... c'est un nouveau champ qu'on devrait expérimenter. Le champ de ces échanges multiples qui viennent de partout vont modifier le sens même qu'on donnait au mot censure. Ça ne va plus passer par les mêmes critères. C'est-à-dire que un État ne peut, je vous rejoins tout à fait, un État ne peut pas censurer. Censurer un site web, c'est grotesque, c'est peut-être nécessaire, mais c'est grotesque en termes d'efficacité. Par contre, vont s'exercer d'autres contre-pouvoirs. C'est en termes de contre-pouvoirs, peut-être. L'autocensure, c'est un contre-pouvoir, c'est-à-dire qu'on s'interdit à soi-même de faire un certain nombre de choses pour ne pas blesser, pour ne pas aller... Voilà. C'est vers ça qu'il faut tendre, parce que si on tend vers un système qui coupe et rogne les libertés, qui dit, vous avez employé l'expression tout à l'heure, « eux, ils savent », si on est encore dans cette histoire de gens qui sont dans le savoir total et absolu, et les autres, ma foi, comme cette masse qu'il faut éduquer et quitte à censurer... on n'arrivera pas à grand-chose, puisque le système a explosé.
Mais alors, du coup, l'autocensure devient effectivement, un signe de haute exigence vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres également. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière la capacité à s'autocensurer?
La capacité, déjà, les choix éthiques, donc la capacité à faire des choix éthiques, donc la connaissance, la formation, le savoir qu'on peut avoir dès le début, enfin l'éducation. Lorsqu'on n'a pas la conscience de ses limites, lorsqu'on ne sait pas de quoi l'on parle, vous parliez tout à l'heure, on ne sait pas de quoi on parle, on ne sait pas. On ne sait pas que représenter le prophète, ça ne se fait pas dans cette religion. Après, on peut choisir de le faire, mais si on ne le sait pas, on n'arrivera à rien du tout. Donc c'est vraiment par l'éducation. C'est vraiment par l'éducation que l'on arrivera aux gens à dire ça, vous ne pouvez pas le faire. Alors ici, on emploie le mot autocensure, on peut employer d'autres mots, on peut parler de code, de déontologie, de règles, de vie, de vivre ensemble, etc. Mais autocensure, c'est joli, parce que ça veut dire que soi-même, on se fixe les propres limites. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a des limites à se fixer, donc ça veut dire qu'on est au clair sur ce qui est en face, ce que l'on peut faire, ce que l'on doit faire. C'est le but ultime, l'autocensure.
C'est un exercice de liberté, l'autocensure.
Ouais.
Alors que la censure, au contraire, c'est l'inverse. Pour moi, l'autocensure n'est pas un gros mot, c'est pour moi l'exercice de ma liberté.
Et cet exercice de la liberté est une nécessité par rapport à ce que nous traversons aujourd'hui.
Oui, d'autant plus que il faut bien. On parle beaucoup de médias, de réseaux sociaux, etc. Je vous rappelle qu'Internet, dans la pratique, n'existe que depuis quelques années et commence à révolutionner. On vit une révolution. La presse écrite, ça date de Gutenberg. On vit encore aujourd'hui en s'accrochant à quelque chose qui a plusieurs siècles, alors qu'on est complètement noyé déjà par les réseaux sociaux, etc., qu'on connaît mal, on ne sait pas trop s'en servir. On a juste 3-4 ans de recul par rapport à ce qu'on vient de vivre pendant plusieurs siècles avec Gutenberg. C'est énorme à vivre. C'est un vrai choc culturel pour tout le monde, y compris pour nous qui le pratiquons.
Sur les questions liées au débat actuel sur la Constitution, sur le cas d'exception, donc vous avez précisé tout à l'heure que la censure de la presse ne faisait pas partie de ce qui potentiellement allait être constitutionnalisé. Mais est-ce qu'on peut se dire que finalement, alors c'est une très bonne chose, puisqu'on va faire confiance, on va continuer à faire confiance sur, pour ce qui est de la liberté d'expression, au débat démocratique, c'est-à-dire qu'on aura des jugements qui seront peut-être moins définitifs, finalement, que ce qu'on disait tout à l'heure, sur ce point précis. Est-ce qu'on peut penser que ça va se passer comme ça, malgré le choc culturel dont vous parlez, malgré la tendance à fabriquer des règles un peu coercitives parfois, voilà. Comment vous voyez la suite ?
Comment on dit dans ces cas-là, on dit « je suis pas Madame Soleil », faisant référence à cette brave dame. Je ne peux pas prédire l'avenir. Certains matins, je me réveille, je suis très pessimiste. D'autres fois, je me dis, mais non, comme vous disiez, on a traversé d'autres crises, les gens peuvent reprendre, le pire n'est jamais sûr, comme disait un président de cour d'assises que j'ai connu, c'était quand même assez redoutable. On est dans un monde qui bouge, c'est vraiment enfoncer une porte ouverte de le dire. On est dans une pleine période de changement. Vous faisiez allusion à la presse écrite et aux informations qui nous viennent de partout aujourd'hui. Vous dites justement, on a 3-4 ans de recul, alors que bon. Donc on est en pleine période de changement. Donc on ne sait pas ce que va devenir ce système. C'était un système centralisé, connu, répertorié, il y avait la censure. Quand on était dans une période de censure, soit le gouvernement était liberticide, soit on était dans une période de guerre, et il fallait, etc. Tout ça, c'était connu. Tout ça, c'était balisé. Là, on ne sait plus. Il faut censurer quelqu'un qui a des convictions qui ne sont pas les nôtres. Est-ce qu'il faut le censurer de façon préventive? On en parlait au début. Oh, mais vous comprenez, ça va faire du mal. On ne sait plus. C'est ça qui caractérise notre siècle, qui est fascinant aussi, c'est que on est dans une perte, diront certains. Moi, je dis dans un changement de repère. Et on reconstitue quelque chose à la vitesse grand V. Donc, j'en sais rien.
Je crois que le problème est là, c'est la vitesse.
Ouais.
On a vécu lentement jusqu'à aujourd'hui, et aujourd'hui, on est dans un monde où tout va vite, très vite. Je ne dis pas forcément trop vite, mais tout va très vite. Si on parle des réseaux sociaux tout à l'heure, j'en fais pas une critique, au contraire. C'est aussi parce que les gens ont besoin de moyens d'expression. Après, on critique l'expression telle qu'elle a été faite, ou trop mal, trop tard, trop tôt. Mais en tout cas, ça montre bien qu'il y a un moyen d'expression. Et si je suis le premier à regretter toutes les idioties qui peuvent circuler sur Internet, je suis bien content que ça existe, parce que je trouve que c'est un moyen d'expression, tout simplement. Et tout le monde a le droit de s'exprimer. Tant mieux si ça s'exprime, après qu'on critique l'expression, mais tant mieux, ça crée du débat. Tous ces réseaux sociaux, ces chaînes d'infos, ces radios, etc., tant mieux, tout le monde s'exprime. Je serais très malheureux de vivre en Chine. Voilà. Aujourd'hui, je suis en France, J'ai beaucoup de critiques à faire, mais j'ai aussi la première chose à faire, c'est de reconnaître que on n'est pas censuré. Voilà.
Alors, il y a un slogan qui tourne partout, sur tous les réseaux sociaux, dans tous les médias depuis un an maintenant, c'est « Je suis Charlie ». Je suis Charlie comme symbole de la liberté d'expression. Est-ce que l'un et l'autre, vous êtes Charlie ?
Alors, j'ai même été au départ à Harakiri, donc oui, je me suis naturellement senti Charlie au moment des attentats, parce que au moment des attentats, c'était une réaction de toute la communauté. Aujourd'hui, j'ai quand même le sentiment que de dire « je suis Charlie », c'est affirmer son appartenance à une communauté en particulier. Donc autant, oui, à 10 000%, j'étais Charlie il y a un an, aujourd'hui, au fond de moi, je le suis toujours, mais je ne l'affirmerai pas. Je ne l'affirmerai pas haut et fort comme un discours d'appartenance à une communauté.
Moi, je rejoins ce que vous dites. Bah oui, si c'est manifester, se déterminer face à toutes ces horreurs, ces outrances et ces excès invraisemblables. Oui, je suis Charlie, je suis Paris, je suis Bataclan, je suis fou. Mais je parlais d'instrumentalisation, j'ai conscience aussi en faisant ça que je suis instrumentalisé, mais je l'accepte volontiers. Je rejoins ce que vous disiez, c'est que je suis contre toutes les bêtises, contre toutes les actions terroristes, contre toutes les violences, contre toutes. Je suis Charlie, je suis arrêtons tout ça, posons et discutons et regardons l'autre autrement. Ça a été un choc, deux chocs, je suis aussi pour ces gens qui n'y sont pour rien et qui migrent par centaines de milliers, par millions, et qui sont victimes de, allez, nos marchands d'armes paisibles, nos sociétés prospères. Je suis aussi pour que ces gens-là, on réfléchisse à ce qu'ils vont devenir, à ce qu'ils sont, pour qu'on arrête de censurer, de s'auto-censurer, dans le mauvais sens du terme, en ne reprenant que des événements catastrophiques. Élargissons le débat. J'étais Charlie au moment sous le choc, je le suis encore affectivement, j'espère l'être toujours, mais je ne suis plus le même Charlie. Alors tiens, ça me plaît d'être dire je suis Harakiri, parce que là c'était vraiment le fond du fond, hein. Le professeur Choron, il n'était pas gracieux quand même, hein. Bon, mais je voilà. Oui, liberté, liberté chérie.
Il n'avait qu'un discours, c'était de faire rire.
Oui, voilà. Oui, à n'importe quel prix.
Faire rire à n'importe quel prix.
Liberté, liberté chérie, voilà. C'était... Ouais, bon, voilà.
Donc rions un peu, arrêtons de pleurer.
Ouais, avec...
Voilà, je voudrais terminer simplement en vous redonnant la lecture des articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui disent ceci pour l'article 10. « Nul ne doit être inquiété par ses opinions, même religieuses, pourvu que les manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. » Article 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas prévus par la loi. Et je mettrai au bout de cela quelque chose qui fait référence à une circulaire qui est paru le 12 janvier dernier par le ministère de la Justice et qui dit que effectivement un acte terroriste est défini plus exactement comme étant un acte pouvant troubler gravement l'ordre public par intimidation ou par terreur. Chacun fera de ces informations et de cet échange ce qui lui paraîtra bon de penser et d'agir. Voilà, on espère que cette réflexion vous aura apporté effectivement quelque chose de plus. Et nous vous souhaitons une bonne journée.
Merci.
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 We'll be right back.